Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine-Nar-Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Histoire économique de la France de la Gaule à nos jours » est un essai d'histoire économique signé par Charles Serfaty, économiste à la Banque de France. Paru chez Passé Composé, l'ouvrage propose une synthèse de longue durée, depuis la Gaule jusqu'à l'époque contemporaine, dans un format accessible mais fondé sur des données et une lecture critique des idées reçues. Son ambition est double: combler un manque historiographique sur le très long terme et offrir une grille de lecture renouvelée de l'histoire française par l'économie. L'auteur s'intéresse moins à un récit politique classique qu'aux conditions matérielles, aux échanges, aux institutions, aux dynamiques démographiques et aux transformations productives qui structurent la puissance d'un pays. Le livre se distingue par une volonté pédagogique assumée, tout en défendant des thèses nuancées mais souvent contraires aux clichés habituels sur le Moyen-Âge, la prospérité, ou le lien entre richesse, puissance et influence. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une synthèse rare sur l'histoire économique française de l'Antiquité à aujourd'hui. L'un des apports majeurs du livre est son ampleur chronologique. Serfaty ne se limite pas à la période moderne ou contemporaine, comme c'est souvent le cas dans les synthèses économiques, mais remonte jusqu'à la Gaule afin de proposer une continuité historique sur plus de deux millénaires. Ce choix répond à un vide éditorial. Les grandes synthèses antérieures, notamment celle de Brodel et Labrousse, commencent beaucoup plus tard et ne couvre pas l'ensemble du développement français. En adoptant cette perspective longue, l'auteur peut relier des périodes habituellement étudiées séparément et montrer comment certains invariants se prolongent malgré les ruptures politiques. Le livre n'est donc pas seulement un récit rétrospectif. Il constitue aussi un outil de comparaison entre époques. Cette architecture permet au lecteur de mieux comprendre pourquoi des phénomènes de croissance, de stagnation ou de puissance politique ne coïncident pas toujours avec les mêmes phases économiques. Deuxièmement, démonter les idées reçues sur le Moyen-Âge, la prospérité et la puissance. Le livre se construit en grande partie contre des représentations simplificatrices de l'histoire de France. Serfaty conteste l'idée d'un Moyen-Âge forcément obscur et immobile en rappelant qu'il a été une période de croissance, d'essor urbain, de développement commercial et de hausse démographique. Il remet aussi en cause l'association automatique entre richesse nationale et grandeur politique. La France a pu être l'une des puissances dominantes en Europe, sans que son économie soit toujours la plus performante, et inversement, certaines phases de prospérité n'ont pas nécessairement produit une domination géopolitique. Ce déplacement du regard est essentiel, car il oblige à distinguer plusieurs indicateurs souvent confondus: niveau de vie, puissance militaire, rayonnement diplomatique, dynamisme commercial et organisation productive. L'ouvrage montre ainsi que l'histoire économique permet de corriger les récits téléologiques où tout serait orienté vers une amélioration continue ou vers une supériorité supposée de certaines périodes. Troisièmement, la géographie française comme cadre structurant des échanges et des idées. Serfaty accorde une place centrale à la géographie qu'il considère comme un invariant fondamental de l'histoire économique française. La position de la France entre façade atlantique et façade méditerranéenne a favorisé les circulations commerciales, les contacts culturels et les transferts techniques. L'ouvrage reprend ici une intuition proche de Vidal de Lablache: la France est une contrée située au rapprochement de deux mers, ce qui lui donne une fonction de liaison au sein de l'Europe. Cette configuration ne produit pas mécaniquement la prospérité, mais elle ouvre des possibilités de relais, d'échange et d'intégration territoriale. Le livre montre que les contraintes et avantages spatiaux doivent être lus sur le temps long, car ils influencent les axes de circulation, l'organisation du territoire et les opportunités de développement. Cette approche évite de réduire l'économie à des choix politiques ponctuels. Elle rappelle que les infrastructures, les ports, les fleuves et les corridors d'échange façonnent durablement les trajectoires nationales. Quatrièmement, le rôle des institutions et de l'État dans le développement économique. Une autre idée importante du livre est que le développement économique ne dépend pas seulement de ressources naturelles ou d'initiatives marchandes, mais aussi de la maturation des institutions. Serfaty insiste sur le fait qu'un certain niveau de développement de l'État semble nécessaire pour rendre possible une croissance plus structurée. Cette thèse ne réduit pas l'État à un simple moteur de richesse. Elle le présente plutôt comme un cadre d'organisation, de protection, de coordination et déstabilisation. L'ouvrage s'inscrit ainsi dans une réflexion sur la construction administrative, fiscale et politique de la France, en montrant que l'économie et l'État se développent conjointement. Cela permet d'éclairer des périodes où la centralisation politique a précédé ou accompagné les transformations économiques. Le lecteur comprend alors que la puissance publique n'est ni totalement extérieure à la croissance, ni automatiquement favorable à elle. Tout dépend de sa capacité à soutenir des institution suffisamment stable et crédible pour faciliter les échanges, la circulation des biens et l'extension des activités productives. En dernier lieu, une vulgarisation érudite fondée sur les données et la réévaluation des causalités, le livre se distingue enfin par sa méthode. Serfati cherche à réécrire l'histoire économique de la France à partir de données récentes et d'une lecture rigoureuse des causalités, sans adhérer d'emblée à une doctrine. Cela se traduit par des renversements d'explications importants, notamment quand il suggère que certaines innovations, comme l'imprimerie ou la poudre à canon, se diffusent parce qu'il existe déjà une demande sociale et politique pour les livres ou les armes, plutôt que l'inverse. L'intérêt de cette démarche est de rappeler que l'innovation ne surgit pas dans le vide, elle répond à des besoins, à des incitations et à des marchés. Le livre adopte ainsi une forme de synthèse claire et pédagogique, mais sans simplifier les mécanismes économiques. Sa valeur tient à l'équilibre entre accessibilité et exigence analytique. Il parle autant à un lecteur curieux d'histoire qu'à un lecteur souhaitant comprendre comment les dynamiques de long terme reconfigurent l'interprétation des faits établis. En conclusion, Histoire économique de la France de la Gaule à nos jours s'adresse à un public large lecteur d'histoire, étudiant, curieux d'économie. Mais aussi, toute personne qui souhaite comprendre la France autrement que par le seul récit politique. Le livre sera particulièrement utile à ceux qui veulent disposer d'une synthèse solide sur le temps long, sans sacrifier la lisibilité. Son intérêt pratique est de fournir des repères pour distinguer puissance, richesse, niveau de vie, institution et géographie, des notions souvent mêlées dans les lectures rapides de l'histoire nationale. Son intérêt intellectuel est plus fort encore, il oblige à revisiter des idées reçues sur le Moyen-Âge, sur la croissance, sur le rôle de l'État et sur le lien entre innovation et demande. Ce qui le différencie de nombreux ouvrages comparables, c'est sa double identité de manuel accessible et de synthèse ambitieuse, appuyé sur des données neuves et un réel effort de relecture critique. Il ne se contente pas d'additionner les périodes, il propose une interprétation cohérente de la trajectoire économique française sur la très longue durée. Si vous souhaitez soutenir Charles Serfati, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt !